L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Isidore Rubinstein, docteur en pharmacie, membre de la Société française d'homéopathie, enseignant, auteur d'ouvrages autour de l'homéopathie d'officine, dont le dernier avec ses consoeurs Akima El-Jabli, Anne-Claire Frey et Anaïs Zeller, ses doctorantes pour être précise. Son titre, le titre du livre, Face au cancer avec mon pharmacien, soins de support à l'officine, et c'est aux éditions Univers Santé. Isidore Rubinstein, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Donc, deuxième interview autour de votre livre. La première, elle est disponible sur notre site. Elle parle du cancer, des effets, des traitements, des soins de support et en particulier en officine. Pour cette deuxième interview, je vous propose des questions plus concrètes sur l'accompagnement possible des personnes en traitement et du rôle du pharmacien. Alors, au-delà de répondre aux ordonnances des médecins, de quelle façon le pharmacien intervient dans le parcours médical du patient? Ça, c'est une question plus générale.
Oui, c'est une question générale et difficile. Nous avions évoqué dans nos dernières rubriques ce que sont les soins de support. Les soins de support, je vous l'avais dit, ont été validés scientifiquement lors d'une publication scientifique du professeur Krakowski et s'inscrivent dans le plan cancer à l'époque du gouvernement du président Chirac. Les soins de support ont pour but d'apporter aux patients une meilleure qualité de vie, lui permettre de mieux supporter les traitements. Et un patient qui se sent mieux, évidemment, va pouvoir aborder sa maladie avec plus de sérénité et on va lui permettre de entrevoir un meilleur pronostic. C'est ça les soins de support. Et là, le pharmacien d'officine a un rôle à jouer. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de questions, des petites questions, des grandes questions, des questions plus importantes, moins importantes, qui touchent tous les domaines de la vie au quotidien. Mais si vous voulez, les patients que nous voyons à la pharmacie, soit viennent nous voir avec une ordonnance d'un médecin cancérologue spécialisé en soins de support, d'accord ? Le cancérologue, il s'occupe de la maladie en elle-même, combattre cette maladie, c'est-à-dire détruire les mauvaises cellules. On peut expliquer cela comme ça. Et puis les soins de support, c'est permettre aux patients de mieux supporter les traitements. Et puis tous les conseils qui vont avec. Comment manger ? Comment dormir ? Comment vivre ? Comment gérer sa fatigue ? Comment s'organiser? Et puis toutes les questions qui sont inconnues. Ces patients, parfois, viennent nous voir tout simplement parce qu'ils nous connaissent. Effectivement, dans mon ancienne officine, d'ailleurs dans la pharmacie du Pont de l'Europe, et l'activité continue bien sûr avec mon successeur, nous avons validé cette mission. D'ailleurs, le mot mission est bien choisi puisque c'est ainsi qu'il est défini par la loi HPST. Cette mission au service du patient et qui a été sanctionnée deux fois par une nomination au prestigieux prix Galien qui a pour but de récompenser l'innovation dans le domaine de la médecine ou de la pharmacie. D'ailleurs, nous étions la seule officine de France à avoir cette nomination. Le cancérologie est une grande leçon de modestie, mais ça a validé tout le travail que nous avons fait. Le patient qui vient nous voir, généralement, eh bien, il a eu ce qu'on appelle le choc de l'annonce. À l'hôpital, hélas, la cancérologie, c'est quelque chose qui est devenu relativement commun. Mais pour le patient, c'est un coup de massue sur la tête.
Ce mot fait toujours autant peur.
Le mot fait tout à fait peur, d'autant plus que le patient ne connaît pas. Et en cancérologie, Valérie, il y a ce que j'appelle toujours dans mes enseignements, trois paradoxes. Premier paradoxe, c'est que vous avez... On va prendre le cas le plus courant, qui est le cancer du sein. Vous avez une patiente qui a fait un dépistage, ou qui peut-être, en prenant sa douche, a repéré quelque chose de suspect. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la cancérologie, il y a une quarantaine d'années, la cancéro s'est touchée, en ce qui concerne le cancer du sein, des personnes qui avaient plus de 50 ou 60 ans. Aujourd'hui, le cancer du sein touche tout le monde. J'ai même vu d'ailleurs dans ma carrière deux hommes qui ont eu des cancers du sein et puis des jeunes femmes enceintes. Ça touche tout le monde. C'est lié certainement à tout un tas de problèmes, l'alimentation, à la contraception, les hormones, il y a tout un tas, c'est multifactoriel. Et donc vous avez une femme qui fait une mammographie, elle pense que c'est relativement bénin, puis on lui annonce, madame, voilà, vous avez un cancer. Elle comprend pas. Moi, je vais très bien, je suis en pleine forme. Et on annonce à quelqu'un qu'il est malade. alors qu'il n'a pas le ressenti du malade. Et ça, c'est un des grands paradoxes de la cancérologie. Quelqu'un qui va tomber de son vélo, il fera une chute en ski sur la piste noire du Champ du Feu. Ben alors le médecin va dire, écoutez, voilà, vous avez une fracture, dans 3 mois elle sera consolidée, vous allez remarcher, vous allez pas. Il y a une histoire, on voit où on va. Et on ressent la notion de mal. On va consulter un médecin quand on a mal. Il y a un signal d'alarme. Et là, dans le cas que je vous présente, en ce qui concerne notamment le cancer du sein, mais c'est valable aussi pour toute maladie cancéreuse, au niveau de la peau, etc., on dit à quelqu'un « vous êtes malade » que la personne ne l'est pas. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Alors la personne va rentrer, va continuer son activité, va travailler, on lui donne un rendez-vous pour 8, 15 jours, 30 jours, etc. Vous allez revenir, puis là, elle se retrouve dans une avalanche d'analyses, de contrôles, de consultations. Et elle ne comprend vraiment pas ce qui lui arrive, elle est en pleine forme. Et puis, un an ou 2 ans après avoir traversé tous les traitements, chimio, radiothérapie, etc., on va dire à cette personne, et je caricature un peu, qui sera épuisée, qui sera fatiguée, qui aura été traumatisée dans son corps comme dans sa tête, on va lui dire, bah, écoutez, vous êtes guéri. Et la personne, elle n'a plus un cheveu sur la tête, elle est épuisée, elle est guérie. Mais guérie de quoi? Quel paradoxe! On dit à quelqu'un qu'il est malade alors qu'il ne ressent rien, et on dit à quelqu'un, vous êtes guéri, alors que finalement, il est meurtri.
Il est sur les genoux, À quel moment, vous justement, alors le pharmacien d'officine, il intervient?
Ben justement, ça c'est le premier paradoxe. Parce que le pharmacien d'officine, quand cette personne va rentrer le voir, je vais chez mon pharmacien, parce que vous savez, dans
le monde de la médecine, santé, où il y a,
cette relation,
ce lien qui s'est mis aussi en place.
Il y a mon pharmacien, il y a mon cancérologue, il y a mon dentiste, il y a le radiologue, il y a le etc. Il y a parfois, quand vous écoutez les patients parler, il se l'approprie ou il se l'approprie pas. Et là, il s'approprie mon pharmacien. Mon 22 000 pharmacies en France, je vais mon pharmacien, je vais lui en parler. Le pharmacien, c'est quelqu'un d'un petit peu, il en sait un peu trop pour les uns, pas assez pour les autres, n'est-ce pas? Il est entre les deux. Mais enfin, j'ai mon pharmacien, et puis enfin, il y a des pharmaciens qui connaissent quelque chose quand même. Et donc, je vais expliquer à mon pharmacien ce qui se passe. Et là, mon pharmacien va expliquer au patient qu'est-ce qui se passe. Et il lui explique ce premier paradoxe. Parce qu'à l'hôpital, on n'a pas le temps. Et je ne vois pas leur en vouloir, ils sont débordés. Et vous connaissez, vous, en tant que journaliste, les problèmes liés à l'hôpital. C'est une véritable catastrophe. Deuxième paradoxe, cette absence de visibilité. Bon, docteur, il se passe quoi? Vous allez chez le dentiste, ben docteur, ben, il va vous dire, moi, je vous fais ça, ça, ça et ça, dans 8 jours, dans 15 jours, vous n'aurez plus mal, et puis tout va se remettre en place. Vous allez voir suite à un accident, ben, on peut décrire à un patient la chronologie et l'évolution. En cancérologie, on ne sait pas. On va mettre en place un traitement en fonction, évidemment, des connaissances, des analyses, des résultats de la biopsie, mais on ne peut pas annoncer au patient ce qui va se passer. D'ailleurs, le cancérologue, comme d'ailleurs le cardiologue, a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Le gynéco, par exemple, ou le chirurgien, a une obligation de résultats. On veut un résultat, il faut remettre les choses en place, il faut enlever ce qui ne va pas, il faut remettre les choses de façon que la vie puisse reprendre son cours. L'obligation de résultats. Cancérologue, c'est une obligation de moyens. Vous avez jamais entendu dire, heureusement, que tel cancérologue a été mis en examen parce que son patient est décédé. On va peut-être lui demander, est-ce que tout a été mis en place? Oui, tout a été mis en place. Ben, il a fait son boulot. Et d'ailleurs, ils le font très, très bien. Et ça, c'est le grand paradoxe, le deuxième grand paradoxe de la cancérologie. On ne veut pas expliquer au patient ce qu'il attend, ce qui va se passer, parce qu'il n'y a pas deux maladies qui sont les mêmes, il n'y a pas deux patients qui sont les mêmes. Et le troisième paradoxe, mais là, ça s'arrange tout doucement, c'est que la cancérologie se passe à l'hôpital. Alors Valérie, l'hôpital c'est quoi? C'est l'urgence ou c'est la technique? Et là, pour la cancérologie, c'est la technique. C'est-à-dire que la chimiothérapie qui fait tellement peur aux patients se passe à l'hôpital uniquement pour des raisons techniques. Il n'y a pas le choix, il faut que le patient soit entouré. Et puis il y a un certain nombre de remèdes qui sont réservés, ce qu'on appelle à l'hôpital, c'est la réserve hospitalière, qui ne sont pas au niveau de la médecine de ville. Et les patients sont effrayés par l'hôpital. Et ce qui se passe à l'hôpital, c'est qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Vous allez dans une pharmacie pour n'importe quelle affection, vous n'avez qu'une ordonnance, le pharmacien va expliquer au patient le traitement. À l'hôpital, ben vous venez pour votre chimio, on emploie des mots savants, on ne sait pas d'ailleurs à qui souvent on s'adresse, donc on ne parle pas trop. Et on met en place à l'hôpital un traitement, mais je n'ai pas d'interlocuteur. Et j'ai vu des patients à l'hôpital qui voyaient des personnels hospitaliers en blouse blanche leur poser des questions. Ça va? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, tu iras bien. En vérité, c'était des gens qui s'occupaient de l'entretien, ou etc. Et on n'ose pas ensuite à l'hôpital déranger le grand professeur, parce que le grand professeur, il a le droit de vie ou de mort. Si je me plains, il va peut-être me garder plus longtemps. Si je me plains, il va tomber sur les infirmières. Si je me plains, il n'aura peut-être pas le temps de m'écouter la fois prochaine. Je fais un petit peu de la caricature. Oui. Mais voilà ce qui se passe à l'hôpital. Et donc, à l'hôpital, nous n'avons pas de pharmacien d'officine. Oui, il y a un pharmacien hospitalier que le patient ne voit pas. C'est celui qui met en place tous les traitements, toutes les chimios, qui vérifie les dossiers tous les matins. Il est à 5-6 heures du matin vérifier les dossiers du jour. Mais il n'est pas en contact avec le patient. Et donc, vous avez un patient, troisième paradoxe, qui n'a pas d'interlocuteur à l'hôpital. Et c'est là que le pharmacien d'officine, nous y arrivons, a un rôle à jouer pour expliquer au patient sa maladie, expliquer au patient ses traitements et expliquer au patient comment gérer tous ses effets secondaires.
Le patient, il vient avec une ordonnance dans un premier temps, des médicaments avant justement des chimiothérapies, des radiothérapies. Alors, on va parler de tout ce qui est médicamenteux. Vous êtes évidemment le donneur de médicaments et de traitements. Vous explicitez à ce moment-là, vous prenez le patient de façon globale avec ses traitements et ensuite pour les conséquences de ces traitements.
Il y a deux cas de figure. D'abord, il y a le patient qui vient, qui vous connaît, il dit voilà ce qui arrive à ma fille, ce qui arrive à mon mari, et il est perdu. Deuxième cas de figure, il vient avec une ordonnance d'un médecin spécialisé en soins de support. Il faut savoir que rien ne peut remplacer les traitements académiques. Nous sommes là pour aider les patients à mieux supporter, comme nous disions, leur traitement. Le patient qui arrive à l'officine, il est marqué par l'annonce. Alors vous avez tous les cas de figure possibles. Il y a celui qui vient, qui vous dit « Ah, mon gynécologue, c'est la colère, mon gynécologue qui me suit depuis 30 ans n'a rien vu venir. Et puis alors il faut attendre 3 semaines pour avoir un rendez-vous. Il est plus cher que les autres, il vous prend jamais à l'heure. » Et là, il y a toute la rancœur qui sort. Puis vous avez les gens qui viennent qui sont complètement abattus, traumatisés. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a ceux qui culpabilisent. Il y a ceux qui angoissent, bien évidemment, et tous les patients qui sont touchés par cette maladie, bien évidemment, angoissent. Et en fonction de... Et puis il y a ceux qui paniquent. Moi, j'ai vu des gens pousser des cris dans la pharmacie. Une fois, une dame vient nous voir, on lui avait annoncé que son fils de 17 ans n'avait plus que quelques jours à vivre. Et elle poussait des hurlements. Elle m'a dit, vous savez, à l'hôpital, ils m'ont dit que j'étais folle, qu'il fallait aller voir un psychiatre. Je dis, non, madame, vous n'êtes pas folle. Quand on annonce à une maman que... une telle nouvelle, bah c'est tout à fait normal que... Et alors, elle voulait voir un médecin qui n'était pas trop bien vu, n'est-ce pas, dans les milieux hospitaliers. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'y vais quand même? J'ai dit, écoutez, si on vous annonçait que votre enfant, il en a plus quelques semaines à vivre, bah pourquoi vous n'iriez pas voir n'importe qui pourrait l'aider? Et je dois vous dire, d'ailleurs, que ça fait quelques années, le garçon est toujours là. Parce qu'en cancérologie, il n'y a rien de ce... J'ai vu des patients... Il n'y avait aucune raison qu'ils disparaissent. J'ai vu d'autres patients qui auraient dû disparaître depuis longtemps et qui sont toujours là, Dieu merci. La médecine n'est pas une science exacte. Ça, il faut le savoir et tout à fait d'ailleurs comme la biologie. Donc vous voyez tout ce rôle que nous pouvons jouer et nous sommes là pour aider ces patients, soit trouver le bon mot, soit pour trouver le bon remède, soit pour leur trouver la bonne adresse.
De façon très pragmatique, ce temps d'écoute, vous l'avez en pharmacie?
Bon, on l'a pas, mais on le prend.
Vous le prenez?
On le prend. Et les gens savent qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment à l'officine, qu'ils seront toujours reçus. Et quand j'avais pas le temps, ou mes collègues, nous n'avons pas trop de temps avec les patients, eh ben, on leur disait que vous voulez revenir. Mais en vérité, c'est plus compliqué que ça. Quand un patient vient vous voir, vous essayez de voir si lui, il a le temps. Parce qu'il y a des gens, alors qui ont l'air très intelligents, et puis finalement, ils comprennent rien. Il y en a qui n'ont pas l'air tellement intelligents, mais ils comprennent tout. Il y en a qui ne veulent pas parler. Il y en a qui ne s'arrêtent pas de parler. Vous avez tous les cas de figure. Il y en a qui veulent savoir, il y en a qui ne veulent pas entendre. Chaque cas est un cas particulier. Et c'est à nous d'essayer de gérer et de répondre à cette attente. Une fois, j'ai eu une patiente qui m'a dit, qui est venue me voir, écoutez, je vois que vous êtes pressé, est-ce que je peux vous aider? Parce que moi, tout ce qu'on m'a expliqué, je peux l'expliquer à d'autres patientes. Et c'était sa manière à elle de combattre sa maladie. Et puis après, nous avons tout un tas de questions qui se posent. La première question, c'est comment manger? Comment vivre? Comment réagir?
comment dormir, comment se mouvoir, comment continuer de travailler. Évidemment, pour les femmes, l'alopécie, alors je dis pour les femmes, en fait, je ne sais pas, peut-être pour les hommes aussi, la question des pertes de cheveux, qui prend souvent une importance qu'elle ne devrait pas avoir. C'est juste une conséquence, et il n'y a pas là-dedans de danger, de mise en danger de la vie du patient.
Mais c'est tout le paradoxe, encore un, ça sera le quatrième paradoxe de ce jour. Nous avons vu des patientes qui avaient un excellent pronostic, tout se passait bien, des excellents marqueurs, j'ai envie de dire, ils étaient sortis de la phase aiguë, mais ils n'avaient plus un cheveu sur la tête. Et si vous dites à cette personne, bah, écoutez, tout va bien, mais elle vous regarde de travers, mais regardez la tête que j'ai le matin comme je lève. Le paradoxe, c'est le ressenti du patient. Vous avez des patients qui sont en pleine forme et avec un pronostic, j'ai envie de dire biologique, qui est très mauvais. Puis vous avez des patients qui ont un pronostic biologique qui est excellent et qui sont bloqués au fond de leur lit, usés, fatigués. Et ça, c'est un véritable paradoxe. Et un des grands problèmes que nous avons à l'officine en cancérologie, c'est l'alimentation.
La dénutrition.
35%, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, parce que si les gens nous écoutent, ça risque de les affoler, mais 35% des décès en cancérologie sont liés à la dénutrition. Ça veut dire que les patients, il faut qu'ils se pèsent toutes les semaines. Et ça, dans une pharmacie, on peut le faire une ou deux fois par semaine. Surveiller le poids et lutter justement contre la perte de poids. Je raconte toujours une histoire que nous avons eue avec un patient qu'on appelait Monsieur L. Je l'aimais beaucoup, c'est un chef d'entreprise très digne, un peu rougeau comme ça, et qui avait un cancer qui n'était pas mauvais de mauvais pronostic. Il venait, il cherchait ses médicaments, et puis il me posait quelques questions, mais jamais directement. Est-ce que vous avez entendu que tel symptôme peut exister? Est-ce que vous avez entendu de parler des résultats de tel ou tel médicament? Il disait jamais je, il ne se mettait jamais en avant, et c'était sa manière de vivre. Puis après, une fois qu'on avait fait le point sur ses traitements, ben alors on discutait amicalement d'autres sujets. Un jour, son épouse vient avec une ordonnance d'un bain de bouche. Pour son mari, il dit, mais votre mari n'est pas là, s'il est dans la voiture, il va pas bien. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, écoutez, il a des problèmes dans la bouche, etc. Ce qu'on appelle des mucites, comme des aftes, n'est-ce pas? Il n'arrive pas à manger, ça n'est pas en forme. Et l'hôpital a prescrit tel bain de bouche. Et je lui dis, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Pourquoi? Parce que il s'agissait d'un bain de bouche acide, donc antiseptique. Et la maladie cancéreuse, comme toutes les maladies chroniques, comme les maladies rhumatismales, etc., provoque une acidification de l'organisme. Donc on ne va pas rajouter un bain de bouche acide sur un terrain qui est déjà acidifié, il faut basifier et prendre un bain de bouche neutre ou un bain de bouche légèrement basique. Alors on a un problème, c'est qu'il faut effectivement éviter l'infection et protéger. C'est pas simple. Mais en tout cas, ce qui se passait, c'était pas bon. Je sors de la voiture, de l'officine. Monsieur L était dans sa voiture, une grosse voiture noire de direction, n'est-ce pas? Et il était du côté passager et je le vois, les lèvres complètement enflées, des filets de sang qui coulaient pour à peine parler. Et il me dit, voyez, difficilement, aujourd'hui, ça va pas. J'ai compris ce qui se passait. Et alors, comme c'était un bagarreur, un battant, plus ça allait mal, plus il prenait ce bain de bouche, plus ce bain de bouche le brûlait, et plus ça le brûlait, plus il continuait. Je rentre à l'officine, je fais immédiatement préparer un bain de bouche basique, à base de bicarbonate de sodium. Je rajoute quelques gouttes de calendula, parce que le calendula, c'est une plante qui a des effets cicatrisants extraordinaires. Et je retourne à sa voiture, c'est au mois de mois de juin, comme ça, début juillet. Et je lui dis, mais il me dit où? Je lui dis ici. Il se rince la bouche, commence à cracher. En quelques minutes, évidemment, il était soulagé. Je ne sais pas qu'il était guéri. Il était soulagé. Et ça allait mieux. Je lui dis, surtout, vous ne touchez plus ce bain de bouche acide. Pourquoi? Parce que l'hôpital, je ne vais pas le critiquer, mais l'hôpital, leur problème, c'est plutôt, et à juste titre, de faire de la cancéro et pas s'occuper des mucites du patient d'une manière directe.
Bon. Et cette histoire qu'on retrouve, puis, évidemment, dans le livre. Dans
parce
ce
que
livre.
C'est marquant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc, il va mieux, et on rentre de vacances, fin août, et j'apprends qu'il est décédé. Sa femme, d'ailleurs, vient me voir, pour nous remercier. Bon, j'étais touché, mais on fait pas ça, parce que pour avoir des remerciements, bien sûr. Et elle me raconte que son mari était tellement mal, complètement dénutri, qu'il a été hospitalisé. Et il a chopé, comme on dit grossièrement, une infection nosocomiale à l'hôpital, et il est mort d'une pneumonie. Il est pas mort de son cancer. Il est mort de dénutrition. Et sa dénutrition qui provoque un affaiblissement des résistances et du système immunitaire a permis qu'il ait ça. Et ça fait très très mal, Valérie. Vous voyez, il ne faut pas être un grand médecin ni prix Nobel de médecine pour aider un patient à régler sa dénutrition.
Et quand on parle de dénutrition, vous avez évidemment, selon la pathologie, un tableau avec les aliments à conseiller, à déconseiller, à privilégier. En fait, c'est la nutrition également, mais et des plantes qui peuvent aider à redonner de l'appétit ou peut-être à combler certaines anémies. Comment est-ce que vous mettez, vous, ces outils à disposition du patient? On arrive à la fin de l'interview, Izzy Rubinstein. Comment est-ce que vous mettez, vous, ces outils à disposition des patients?
On explique aux patients ce qu'il faut manger et pas manger. Une chimiothérapie, c'est 10 plaques de chocolat d'un coup sur le foie. Donc, il faut faire de l'épargne hépatique. Donc, c'est pas la peine, le jour, quelques jours avant et quelques jours après la chimio, de se gaver d'une bonne choucroute bien grasse, ou du gâteau à la crème, ou d'un couscous. On est bien d'accord. Donc, il y a des aliments, et ça, on les retrouve, qui sont à éviter, à proscrire. Ensuite, il y a des aliments qu'il faut éviter parce qu'ils sont bourrés de radicaux libres, pas dans les détails. Il faut éviter les sucres rapides parce que la cellule cancéreuse adore le sucre rapide. Bon, il faut éviter les dérivés laitiers, le lait. Pourquoi ? Parce que le lait est rempli de facteurs de croissance, n'est-ce pas ? Vous voyez très bien comment grandit un petit veau après la naissance, donc on va éviter les facteurs de croissance. Donc il faut gérer ce qui est interdit, il faut gérer ce qui est permis, ce qui est conseillé, parce qu'il ne faut pas que le patient souffre de dénutrition. C'est un peu, comme j'explique aux patients, comme pour les sportifs. Et là, nous remettons généralement ces tableaux diététiques aux patients, sur lesquels on peut rajouter des différents éléments, des précisions, s'il s'agit d'un cancer digestif ou d'autres maladies, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et dans le livre, nous avons eu l'idée de mettre des QR codes qui vont permettre aux patients de décharger le tableau soit sur son téléphone, soit d'imprimer une feuille sur laquelle il peut indiquer un petit peu de ce qu'il a besoin. Et dans le livre, nous avons un certain nombre de QR codes qui vont permettre de donner des documents, soit pour le pharmacien, puisque le livre s'adresse au pharmacien, à son équipe, mais surtout aux patients, et qui vont lui permettre de se sortir du livre et d'avoir son petit dossier médical.
Isidore Rubinstein, merci infiniment. Alors évidemment, ce livre s'adresse aux patients, s'adresse aux personnes qui voudraient même faire de la prévention. Il y a un grand passage également sur la prévention. Ça s'adresse aux pharmaciens d'officine qui voudraient amener une expertise auprès de son patient. Évidemment, ce qui est important, et c'est votre expérience et le temps d'écoute que vous mettez, au profit du patient. Pour ça, merci beaucoup. Isidore Rubinstein, je rappelle, vous êtes docteur en pharmacie, membre de la Société française de homéopathie, et vous êtes venu nous présenter Face au cancer avec mon pharmacien, soins de support à l'officine, que vous avez coécrit avec vos doctorantes qui sont établies aujourd'hui, Hakima El-Jabli, Anne-Claire Frey, Anaïs Zeller.
Merci beaucoup. C'est un livre qui est validé par les professionnels de santé que nous sommes, pour tous, j'ai envie de dire, les acteurs de l'officine, du pharmacien, de son équipe, et surtout des patients, parce que ça, c'est eux l'essentiel.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.